Pour faire une bonne retraite, il y a quand même des conditions à remplir. Donc là, je voudrais vous dire quelques mots là-dessus pour rentrer un petit peu dans l'atmosphère d'une retraite. On n'arrête pas comme ça un TGV donc en un instant. Donc pour certaines personnes, il faut plus de temps. Donc ça aussi, on voit que certaines se mettent tout de suite dans l'atmosphère en fonction de ce qu'elles ont pu faire avant. Et d'autres, il leur faut soit 24 heures, soit 48 heures donc pour arriver vraiment à se poser, quoi, rentrer dans la retraite. Donc quoi qu'il en soit, essayez d'avoir bien en tête aujourd'hui le but de cette, enfin, ce pourquoi est fait une retraite, et donc comment réussir votre retraite. Donc, pour bien faire une retraite, il me semble que il faut essayer donc d'être réceptif à ce que le bon Dieu voudra vous dire, vous voyez. Donc, le bon Dieu va vous parler à travers les prêtres, il pourra vous parler aussi dans le silence, vous voyez, il pourra parler dans le cœur à cœur, dans la prière, il pourra vous parler à travers les lectures de table, ou encore aussi, les lectures que vous pourrez faire personnellement. Mais donc, à vous d'être disposé à entendre cette voix de Dieu. Donc, il faut, je pense, avoir une grande ouverture d'âme si vous voulez donc être vraiment réceptive à ce que le bon Dieu pourra vous dire. Parce que le bon Dieu, vous voyez, normalement, quand il nous parle, il nous console. L'Esprit Saint, c'est le consolateur. Mais en même temps aussi, parce qu'il veut notre bien, il veut nous faire monter, vous voyez. Et donc, on a le vieil homme qui reste malheureusement, même après le péché originel, qui demeure aussi en nous et qui a donc tendance à freiner des cas de fer. D'où les tensions intérieures qu'il y a parfois parce que on sent qu'il faudrait couper avec telle relation, on sent qu'il faudrait prendre telle résolution pour arriver à décoller un petit peu. Et donc, on veut et on veut pas. Donc, on est partagé. Donc, d'où les tiraillements. Donc, à vous au départ d'être vraiment très ouverte, vous voyez, à l'action de la grâce. Donc il faudrait avoir le désir d'accueillir en fait tout ce que le bon Dieu pourra vous dire. Parce qu'en tout cas, c'est quand même la disposition première, je pense, qui est la vôtre. Votre désir aujourd'hui, c'est quand même de. Si vous êtes venu ici, si vous avez consacré 5 jours pour le bon Dieu, c'est bien parce que vous voulez l'entendre et vous voulez ensuite l'écouter. Mais donc, il faut savoir à l'avance que cette écoute de Dieu donc, doit exiger de votre part une grande générosité. Parce que quand le bon Dieu nous dit des choses qui sont très agréables, ça fait très plaisir, mais lorsqu'il nous dit des choses qui sont un peu plus exigeantes, ça peut être un peu plus difficile. Ensuite, quand je dis entendre la voix de Dieu, ça ne veut pas dire que l'archange Gabriel, vous voyez, va venir vous rendre une petite visite donc demain matin. Hein. Ce n'est pas forcément le cas pendant les retraites. Même si ça c'était le cas, ça pourrait m'inquiéter. Enfin, si c'est arrivé au moins à toutes, l'une peut-être, mais peut-être toutes, ça m'étonnerait. Donc, entendre la voix de Dieu, ça ne veut pas dire sentir Dieu. Donc, il ne s'agit pas, vous voyez, de vouloir sentir. L'homme moderne vit vraiment souvent à la surface de son âme, et il aime éprouver des sensations douces, vous voyez. Alors, ça arrive hein, que le bon Dieu donne ses consolations sensibles. Souvent, il le fait plutôt au début de la vie spirituelle. Mais il ne faut pas être trop gourmand spirituellement. Il y a une gourmandise spirituelle qui existe. Les péchés qui existent au niveau humain se transfèrent aussi au niveau spirituel. Donc, si vous voulez entendre la voix de Dieu, il faut avoir cette assaise de ne pas trop aimer le sucre, parce que sinon, vous risquez d'être attaché plus au sucre qu'à Dieu lui-même. Ensuite, donc, entendre la voix de Dieu, ça ne veut pas dire donc de sentir Dieu. Donc, ne vous inquiétez pas si vous ne sentez pas. Entendre la voix de Dieu, ça ne veut pas dire non plus même comprendre Dieu. Donc, Monseigneur Lefebvre disait un jour que plus on avance dans la vie spirituelle et plus on comprend que Dieu, on ne le comprend pas. Ça veut dire, si vous voulez, que plus on avance, vous voyez, vers Dieu, plus on se rend compte que Dieu est infiniment au-dessus de nous. Vous voyez. Et c'est pour ça que la connaissance vraie de Dieu nous conduit nécessairement, en fait, à nous plonger dans l'humilité. Parce que plus on réalise la grandeur de Dieu, plus on se sent petit. Vous voyez. Donc, si on dit maintenant, ah, ça y est, j'ai tout compris, ben, c'est qu'on n'a vraiment rien compris. Vous voyez. Parce que Dieu étant infiniment au-dessus de nous, on a beaucoup de mal à l'atteindre. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait rien sur Dieu. On vous parlera de Dieu. Ce qu'on vous dira de lui est juste. Mais quand je dis comprendre Dieu, j'entends par là arriver à le comprendre parfaitement. Vous voyez. Même au ciel, il y aura une partie de Dieu qu'on ne pourra pas, on le verra certes face à face, mais on ne pourra pas comprendre Dieu comme Dieu se comprend lui-même. Dieu seul peut se comprendre parfaitement. Donc, il ne s'agit pas donc dans la retraite non plus de donc de vouloir satisfaire une simple curiosité intellectuelle, c'est ça que je veux dire. Aussi bien, nous aurons quand même des lumières, et certainement d'ailleurs, hein, normalement dans une bonne retraite, on saisit un petit peu plus, par exemple, la miséricorde du bon Dieu, ou la justice de Dieu, ou la bonté de Dieu pour nous. Bon, il y a des attributs divins qui peuvent nous toucher davantage, ou la toute-puissance de Dieu, bon, ou la grandeur de Dieu, la majesté de Dieu. Mais ce n'est pas avant tout un exercice, si vous voulez, un effort intellectuel qu'il faut chercher à faire dans une retraite. Voyez. Dans une retraite, c'est plus un cœur à cœur avec Dieu qu'il faut rechercher. Voyez. Un petit peu comme quand des séminaristes veulent rentrer au séminaire, une des premières choses que je leur dis, donc à la fin, lorsque je vois qu'ils ont les dispositions pour rentrer au séminaire, je cherche à savoir s'ils ont déjà fait un petit peu oraison. Alors il y a deux cas, il y a soit ils en ont fait, soit ils n'ont pas fait. Et s'ils n'ont pas fait oraison, eh bien, j'essaie de leur expliquer ce que c'est que l'oraison. Alors pour ça, je leur dis, eh bien, donc, imaginez donc un jeune homme qui désire épouser une jeune fille. Bon, s'il désire épouser cette jeune fille, il cherche à avoir avec elle une certaine intimité. Vous voyez ? Il me dit, ben, vous voyez que c'est exactement ce qu'il faut faire vis-à-vis de notre Seigneur. Là, vous avez dit, je veux rentrer au séminaire, donc ça veut dire que vous désirez cette intimité avec Dieu. Et donc, il faut essayer de rechercher cette intimité. Et donc, il ne s'agit pas de chercher à comprendre Dieu, il s'agit à se rapprocher de lui. Lorsque deux fiancés s'aiment, eh bien, le fait de se sentir proche l'un de l'autre, ça suffit déjà pour se sentir bien. Voyez. Et bien donc, vis-à-vis de Dieu, c'est pareil. Donc, il faut avoir un regard de foi sur Dieu. On sait que le bon Dieu est là, on sait qu'il est tout près de nous, il est dans le Saint-Sacrement, il est même dans mon âme si je suis en état de grâce. Et donc, je vais essayer de vivre un petit peu plus près de lui. Voyez. Et donc, le but de la retraite, c'est vraiment cela. Essayer de vivre un petit peu plus près du bon Dieu. Parce que dans la vie de tous les jours, on a mille choses à penser, donc on pense aussi à Dieu, mais souvent notre esprit a tendance à se disperser. Donc là, pendant la retraite, eh bien, il s'agit d'essayer de retrouver Dieu, donc de rechercher cette intimité. Et pour cela, il faut surtout développer des actes de foi, d'espérance et de charité. Seigneur, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Alors, quels sont les obstacles à ce repos donc spirituel que vous désirez retrouver pendant ces 5 jours ? Bien, parfois, il y a une cause physique qui rend plus difficile la retraite, c'est le coup de pompe. Vous voyez. C'est-à-dire que vous êtes dans un rythme qui est déjà très soutenu dans le monde, et puis là, tout d'un coup, paf, vous vous arrêtez. Alors du coup, ben, il y a parfois l'effet de coup de pompe qui arrive. Donc, ne pas hésiter à bien vous reposer, en tout cas. Et puis, parfois, pour certaines personnes, le silence favorise le déploiement de la folle du logis, donc l'imagination qui se met à tourner dans tous les sens. Et du coup, ça peut être aussi un obstacle à ce repos. D'où la nécessité, donc justement, d'aller voir les prêtres, parce que comme ça, nous, on est là pour dégonfler les ballons, pour essayer de remettre les choses à leur juste proportion, si vous sentez que que ça part un peu dans tous les sens. Et puis, il faut savoir aussi que c'est dans l'ordre des choses que dans une retraite, il y ait certains moments un petit peu plus difficiles. Il en est d'une retraite un petit peu comme du carême. Notre Seigneur, quand il est allé au désert, voyez, pendant 40 jours, eh bien, c'est pendant ces 40 jours au désert qu'il a été tenté, voyez. Il a été tenté par le diable. Alors, parfois, on a du mal, nous, à le comprendre. On se dit, ben, moi, je suis là pour le bon Dieu, je suis là pour le servir, je suis là pour l'aimer, pour lui montrer que je l'aime. Et puis, paf, je me retrouve dans la sécheresse, j'ai des tas d'idées noires qui me traversent l'esprit, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, non, il faut savoir que si on se rapproche du bon Dieu, le démon n'est pas très loin. Hein. Chaque fois qu'on se rapproche de Dieu, il y a le diable qui est pas très loin. Et le diable n'aime pas voir une âme qui se rapproche de Dieu. Donc il nous met des bâtons dans les roues. Donc déjà ici, bon, vous aurez déjà une instruction qui vous sera faite un peu plus étendue là-dessus, sur le combat spirituel. Mais dès à présent, je vous rappelle une grande règle de discernement des esprits, c'est que les phrases qui commencent en général par « qui sait si, peut-être que, si jamais, c'est pas de Dieu ». Voyez. Lorsque le bon Dieu vous éclaire, c'est clair, voyez. Donc aussi bien, même dans une retraite, à un moment donné, on a comme une lueur, tac, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, qui cloche. Alors c'est sûr que ça nous trouble, mais c'est clair, on voit bien que ça ne va pas, vous voyez. Mais si c'est « plus je cherche, moins je trouve », ça c'est pas de Dieu, vous voyez. Donc toutes les phrases qui vous traversent l'esprit et qui commencent par « qui c'est si, peut-être que, si jamais », je vous dis que c'est pas de Dieu. Donc il faut essayer en ce moment-là de les rejeter. Ensuite, après, ce qui peut aussi arriver au début d'une retraite, c'est parfois on se dit, bah mince, là, c'est vrai, j'ai quitté donc ma famille, alors est-ce que j'ai l'air bien dit, est-ce qu'ils ont bien tout compris, puis j'ai laissé ça au frigo, enfin je sais pas quoi. Bon. Donc ne vous inquiétez pas pour ces choses-là. Quoi. Donc vivez bien l'instant présent. D'ailleurs, il y a un texte sur lequel je suis retombé là juste avant la retraite, que je vais vous lire, qui vous montrera bien comment bien suivre cette retraite. Vis le jour d'aujourd'hui. Vis le jour d'aujourd'hui. Dieu te le donne, il est à toi, vis-le en lui. Le jour de demain est à Dieu, il ne t'appartient pas. Ne porte pas sur demain le souci d'aujourd'hui. Demain est à Dieu, remets-le-lui. Le moment présent est une frêle passerelle. Si tu le charges de regrets d'hier, de l'inquiétude de demain, la passerelle cède et tu perds pied. Le passé, Dieu le pardonne. L'avenir, Dieu le donne. Vis le jour d'aujourd'hui en communion avec lui. Donc essayez de bien vivre l'instant présent. Je pense qu'aussi une retraite est aussi faite pour cela, pour apprendre à bien vivre l'instant présent. Souvent, on a tendance à être transporté, donc soit dans le passé, soit dans l'avenir. Trop inquiet sur l'avenir, ou aussi en train de ressasser le passé, ou en train de rêver aussi d'un avenir imaginaire. Eh bien, Dieu est dans le présent. Donc si on veut être uni à Dieu, on doit vivre dans le présent. Vous voyez. Vous pensez que Dieu donc, est dans l'éternité. L'éternité, c'est un présent. Pour Dieu, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Dieu est dans le présent. Donc si je veux être uni à Dieu, je dois vivre l'instant présent. Et c'est comme cela que j'arriverai à avoir une vie qui sera vraiment féconde. Vous voyez. En général, les jeunes sont plutôt transportés vers l'avenir et les personnes âgées sont plutôt transportées vers le passé. Ah oh ouais, c'était le bon vieux temps. Donc, pour arriver vraiment à avoir une vie féconde, c'est en vivant l'instant présent. Alors, ces dispositions qu'il faut avoir maintenant pour entendre cette voix de Dieu. Donc, je vous ai dit un petit peu ce que c'était qu'entendre cette voix de Dieu. La première disposition, c'est le silence. Et Dieu parle dans le silence. Donc, on voit bien, donc les religieux sont des personnes qui vivent dans le silence. Vous voyez. Les religieux sont des personnes qui, par état, cherchent à vivre constamment eh bien, dans la présence de Dieu. Mais la première chose qu'ils font, ils se retirent dans le silence. Donc Dieu parle dans le silence. D'où l'importance de ce silence. Donc silence extérieur, silence de la langue, silence des yeux, et silence aussi intérieur, c'est le plus difficile. Donc apprendre à taire de la préoccupation de nous-mêmes, justement. Et puis ensuite, deuxième disposition, c'est l'humilité. Vous voyez. Savoir toujours s'accepter tel qu'on est. Vous voyez. Soit que vous arriviez à prier, soit que vous n'arriviez pas à prier, c'est pas grave, vous êtes là pour le bon Dieu. Les 5 jours que vous passez ici sont déjà une preuve que vous aimez le bon Dieu. Donc dans la mesure où vous cherchez à faire de votre mieux, c'est ça l'essentiel. Si vous arrivez à décoller, tant mieux, si vous n'arrivez pas, faut vous accepter comme vous êtes. Vous voyez. Et cette humilité est capitale pour la vie spirituelle. Et c'est d'ailleurs cette humilité qui vous donnera les grâces de Dieu. Il est dit dans Saint Luc chapitre 10, versets 17 à 21, c'est notre Seigneur qui parle, « Je vous loue, ô Père, d'avoir caché ces choses aux sages et aux prudents, tandis que vous les avez révélées aux petits. Oui, Père, car tel est votre bon plaisir. » Donc plus on sera petit à nos propres yeux, plus mon Dieu pourra nous parler. Donc à nous d'avoir cette humilité, cette simplicité, de nous accepter tel que l'on est. Ensuite, cette humilité, ce n'est pas pour autant donc de se croire capable de rien et de se laisser aller. Ce n'est pas ça la vraie humilité. À la vraie humilité, normalement, doit être joint de grands désirs. Au contraire, il faut avoir vraiment un grand désir. Je pense que vous êtes venu ici avec des grands désirs. Vous avez vraiment un désir de donc soit de rattraper le temps perdu si vous avez l'impression que les mois derniers vous êtes un petit peu laissé aller, soit le désir de montrer au bon Dieu que vous l'aimez davantage parce que dans la vie tous les jours c'est parfois un peu difficile. Donc il faut avoir ce grand désir. Parce que le bon Dieu, voyez, nous donne que ce qu'on veut bien lui donner nous-mêmes, voyez. Et le bon Dieu veut se donner à nous, mais il se donne à nous en proportion de notre ouverture. Voyez. Plus une âme est ouverte, plus le bon Dieu peut rentrer. Mais si l'âme ne fait qu'entrouvrir la porte de son âme, eh bien, à ce moment-là, le bon Dieu ne pourra pas rentrer complètement. Donc, le bon Dieu prend ce qu'on lui donne. Et donc, plus vous aurez vraiment de grands désirs, plus le bon Dieu pourra rentrer en vous. On voit, par exemple, dans le livre de Daniel, qu'il est dit, c'est l'archange Gabriel qui parle, et qui dit donc au prophète Daniel, « Je suis venu pour t'ouvrir l'intelligence, car tu es un homme de désir. » Donc, on voit que Dieu aime les âmes de désir. On rencontre malheureusement parfois des jeunes qui, à l'adolescence, ils sont déjà blasés, quoi. Ouais, bof, ils ont déjà tout vu, bon, ouais, la vie, c'est pas drôle. Et au contraire, on voit des personnes âgées qui sont encore très ouvertes, qui ont vraiment un esprit très éveillé, vous voyez. Donc ça montre que la vraie jeunesse n'est pas dans l'ordre physique, mais dans l'ordre de l'esprit. Donc, c'est le petit flash de pub pour les personnes d'un âge. Enfin, si vous voulez rester jeune, donc soyez ouverte. Mais c'est certain que donc il faut avoir de grands désirs. Voyez. Parce que c'est ces grands désirs qui permettent au bon Dieu de venir en nous. Alors quand je dis grand désir, ça ne veut pas dire tension nerveuse, vous voyez. Parce que pour certains, les désirs, ça veut dire qu'ils se crispaient. Non, il ne s'agit pas de se crisper. Il s'agit plutôt d'accueillir. Vous voyez. Un tableau, quand on le contemple, vous voyez, pour bien contempler un tableau, il ne s'agit pas de se crisper pour bien voir le tableau. Il s'agit de faire en sorte que l'image du tableau s'imprime en nous. Vous voyez. Donc là, ce tableau représente la mort de Saint Joseph. Donc Saint Joseph est relativement inquiet, on peut dire. Quand on regarde ses yeux, il est que moyennement rassuré, quoi. Par contre, quand vous voyez notre Seigneur, alors lui, très, très serein, il lui montre du doigt le ciel en disant t'inquiète pas. Et il y a la lumière ensuite qui va, qui attire en fait Saint Joseph vers le haut. Et puis la Sainte Vierge qui baise la main gauche de Saint Joseph. Donc, soyons des âmes de désir. Donc, désir qui ne veut pas dire une tension, mais qui veut dire une ouverture d'âme. On peut remarquer aussi, dans la même ligne, que le prêtre, lorsqu'il monte à l'autel, quel que soit son âge, il dit qu'il monte à l'autel qui réjouit sa jeunesse. Donc là, ça montre que même un prêtre âgé, il peut parler de cette jeunesse, parce que s'il reste ouvert à l'action de la grâce, il restera jeune. Et au contraire, alors, on voit que Dieu intervient dans le livre de l'Apocalypse auprès de l'évêque d'Éphèse, où il lui dit « J'ai contre toi que tu t'es relâché de ta charité première. Repens-toi et reviens à tes premières œuvres. » Donc parfois, il y a un enthousiasme au début de la vie et qu'on perd après au fil du temps. Donc c'est le but de la retraite, c'est de retrouver cette fraîcheur d'âme, cet enthousiasme. Et normalement, si on est fidèle à la grâce, c'est sûr que cela doit arriver. Et puis, dernière qualité alors à avoir, c'est la patience. Vous voyez. Et ça aussi, l'homme moderne voudrait arriver à des résultats tout de suite. Voyez. Mais il y a des lois. Hein, dans les lois de la vie, il faut savoir patienter. Donc on n'arrive pas au troisième ciel comme ça, par un simple acte de volonté, d'un coup d'aile. Il faut du temps. Donc on voit que notre Seigneur aime souvent même se cacher pour éprouver notre amour. Voyez. Il y a dans la loi de l'amour aussi, il y a des périodes où la personne aimée se montre et des moments où elle se cache. Et bien notre Seigneur, parfois il se cache pour tester notre amour. Oui. Parce que si on ne reste près de lui que lorsqu'il se montre à nous, ça peut montrer que c'est en fait une attache en fait, qui est égoïste. Oui. Mais quand il se cache et que nous restons près de lui, ça c'est le signe qu'on l'aime vraiment. Oui. Si quelqu'un vous abandonne, si vous voulez, au moment où vous êtes dans la difficulté, c'est le signe que vous n'aimez pas vraiment. Oui. S'il ne reste près de vous que lorsqu'il tire des avantages de vous, c'est le signe qu'il est attaché. C'est plus un amour égoïste qu'un amour vraiment dans la ligne de la charité. Et on voit dans l'Évangile que notre Seigneur sait récompenser les âmes qui ont cette patience. Par exemple, la cananéenne, notre Seigneur, eh bien, lui dit non au début. Il ne veut pas, en fait, lui accorder ce qu'elle demande. Mais elle insiste, elle insiste, elle insiste. Eh bien, il finit par lui accorder. Oui. Ou encore Sainte-Marie-Madeleine, que nous fêtons aujourd'hui. Eh bien, lorsqu'elle est au tombeau, notre Seigneur n'apparaît pas tout de suite. Et on pourrait se dire humainement, quoi, qu'est-ce qu'elle fait là devant un tombeau vide, quoi. Donc, il n'y a pas intérêt à rester là devant un tombeau vide. Eh bien, si, elle est restée là, elle a pleuré, et notre Seigneur lui a paru la première. Parce qu'elle a eu cette persévérance, vous voyez. Donc, alors que tout lui semblait contraire, parce que le tombeau était vide, eh bien, elle est restée, et l'histoire montre qu'elle a eu raison, vous voyez. Et au contraire, on voit que les apôtres, qui, lorsqu'il y avait la tempête, eh bien, ils ont paniqué, ils ont réveillé notre Seigneur. Et le Seigneur a dit « Pourquoi avez-vous eu peur, homme de peu de foi ?» Donc notre Seigneur, même lorsqu'il y a la tempête, il est près de nous. Donc il faut croire vraiment en sa présence. Alors, le thème de la retraite, maintenant, c'est une retraite qu'on appelle de vie chrétienne. De vie chrétienne, ça veut dire que c'est en fait une retraite assez large. Donc il n'y a pas un thème précis, si vous voulez. Donc on essaie de passer en revue un petit peu les différentes étapes donc d'une vie chrétienne. Donc il y aura une instruction d'abord sur Dieu, ensuite on parlera du péché, de notre Seigneur. Donc il y aura une série d'instructions comme cela, avec au début plutôt des généralités, et puis après, au fur et à mesure qu'on avancera vers la deuxième partie de la retraite, ce sera plutôt des choses qui iront plus dans le domaine plus pratique, pour arriver après à tirer des, donc à prendre des résolutions concrètes. Et puis dans la première partie de la retraite, c'est plutôt une partie plus de purification de l'âme. Donc au bout de 2 jours après de retraite, donc on vous proposera une confession. Et puis la deuxième partie de la retraite, c'est plutôt un regard vers l'avenir, donc pour essayer de repartir d'un bon pied. Voilà. Alors dernier conseil que je vous donnerai, c'est de faire la retraite avec la Sainte Vierge. Donc la Sainte Vierge adoucit toujours les moments plus difficiles. Donc pensez qu'elle est certainement près de vous aujourd'hui. Et elle vous aidera à faire une excellente retraite. Donc faites-lui confiance et certainement qu'elle vous aidera à tirer profit des instructions et puis des moments de silence que vous aurez au cours de cette retraite. Alors, une petite chose pratique, c'est qu'au cours des retraites vie chrétienne, je demande aux dames de mettre un foulard sur la tête, enfin au moins quelque chose sur la tête, donc à la chapelle. Donc vous avez au fond de la chapelle donc des foulards. Donc si l'une ou l'autre a vraiment un problème de ce côté-là, qu'elle vienne me voir et donc on discutera. Mais bon, c'est vrai qu'il fait chaud en plus maintenant, donc les pauvres, enfin, pensez à ce qu'ils sont en soutane. Donc. Chacun sa croix. En tout cas, je vous souhaite une excellente retraite et puis donc n'hésitez pas à venir me voir s'il y a quoi que ce soit ou à voir également donc les frères qui se tiendront à votre disposition. Alors nous allons nous rendre à la chapelle pour le chant des complis et puis ensuite demain matin, le lever est à 7h. L'instruction maintenant va porter sur notre Seigneur Jésus-Christ. Donc là, dans l'ordonnance de la retraite pour l'instant, donc vous avez eu une première instruction donc ce matin qui portait sur Dieu. Pourquoi cette instruction sur Dieu? Eh bien le but c'était de vous montrer que le but d'une retraite, c'est avant tout de se rapprocher de Dieu. Donc on fait pas d'abord une retraite pour se regarder, pour voir ce qui va bien ou pour voir ce qui va pas, vous voyez. Le but de la retraite c'est de regarder le bon Dieu. Et plus nous arriverons à regarder le bon Dieu, plus nous pourrons saisir ce que le bon Dieu attend de nous. Donc plus nous pourrons après aussi voir éventuellement donc ce qui a été, ce qui n'a pas été dans notre vie passée, ce qu'il faudrait faire pour que les choses aillent toujours mieux après. Mais ce n'est que dans un deuxième temps. Donc dans le premier temps, le plus important, c'est avant tout de regarder Dieu. Et donc la réussite d'une retraite dépend justement en grande partie de cette capacité que nous avons à nous oublier nous-mêmes pour regarder vers le bon Dieu, voyez, apprendre à saisir un petit peu mieux qui est le bon Dieu. Donc dans la mesure où nous sommes une créature spirituelle, nous sommes faits pour Dieu. Donc ça, c'était l'objet de la première instruction. Alors ensuite, eh bien, je dirais que si nos premiers parents n'avaient pas péché, eh bien, à ce moment-là, disons que dans la mesure où nous sommes précisément des créatures spirituelles, il aurait dû être spontané pour nous d'aller toujours vers Dieu, voyez. Mais malheureusement, en raison de la chute de nos premiers parents, eh bien, il y a en nous aujourd'hui la cohabitation de deux hommes. Il y a l'homme nouveau et le vieil homme. Et donc, vouloir faire une retraite, si vous voulez, en vous parlant que de Dieu et en faisant abstraction du péché, ce serait fausser les données. Parce que c'est un élément quand même capital que malheureusement, depuis le péché originel, donc nous naissons pécheurs, nous avons un penchant vers le mal, et ce penchant vers le mal est un obstacle à notre union à Dieu. Maintenant, la troisième instruction va porter sur notre Seigneur Jésus-Christ. Donc après avoir vu l'obstacle qu'il y a entre nous et Dieu, eh bien on va voir le remède. Quel est le moyen par lequel nous pouvons retrouver le bon Dieu? Eh bien, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est le pont, comme on va le voir, le pontife, donc l'intermédiaire entre Dieu et nous. Et donc, c'est capital, si nous voulons avoir une vie spirituelle équilibrée, de mettre notre Seigneur Jésus-Christ au centre de notre vie. Parce que ce n'est pas par la force du poignet qu'on arrivera à retrouver le chemin de Dieu, c'est par notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est l'intermédiaire, donc choisi par Dieu, pour nous permettre d'arriver à Dieu. Alors ensuite, après, il y a encore d'autres échelons, je dirais, d'autres barreaux de l'échelle qui nous permettront d'arriver à Dieu, que notre Seigneur, ce sera la très sainte Vierge Marie, ce sera notre saint patron, ce seront les saints du ciel, mais chaque chose en son temps. Donc maintenant, je voudrais essayer donc de vous aider à porter un regard sur notre Seigneur Jésus-Christ. Et il me semble en tout cas que c'est très important, régulièrement dans notre vie, de savoir regarder notre Seigneur pour pouvoir l'aimer comme nous devons l'aimer. Et plus nous verrons en notre Seigneur ce qu'il est, voyez, plus nous aurons certainement une grande sérénité dans notre âme. La pensée de notre Seigneur devrait être pour nous régulièrement ça devrait placer notre âme dans une grande confiance. Donc tout d'abord, pour nous apprendre à mieux aimer notre Seigneur, je voudrais vous rappeler un aspect important, c'est la gratuité du mystère de l'incarnation. Je voudrais vous rappeler que, donc aujourd'hui nous savons très bien que Jésus-Christ est venu sur la terre, Jésus-Christ c'est le Verbe de Dieu, c'est la deuxième personne de la Sainte Trinité, nous savons qu'il a pris une nature humaine comme la nôtre, qu'il a accepté ensuite de souffrir et de mourir sur une croix pour nous racheter de nos péchés, nous savons tout cela. Ce que je voudrais maintenant, c'est vous montrer que ce plan divin est vraiment un plan gratuit. C'est-à-dire que notre Seigneur aurait très bien pu ne pas venir sur la terre. Nous aurions très bien pu ne pas bénéficier de la miséricorde de Dieu. Dieu n'aurait pas été injuste en nous laissant dans notre état de péché. Et donc, pour mieux admirer, je dirais, notre grand bienfaiteur qui est notre Seigneur, il est important de nous rappeler cela. Et Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, dans un langage un petit peu imagé, a voulu, pour aider les fidèles à prendre conscience de cela, de la magnanimité avec laquelle notre Seigneur Jésus-Christ a décidé de venir sur la terre, il a imaginé un dialogue. Un dialogue entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Alors bien sûr qu'il n'y a pas de dispute entre les personnes de la Sainte Trinité, hein, toutes les trois personnes sont bien d'accord entre elles, mais il a essayé, si vous voulez, d'une façon imagée, de se représenter un petit peu ce qui s'est passé au sein de la Trinité au moment où l'homme avait péché. Et donc Dieu le Père représente la justice et Dieu le Fils représente la miséricorde. Et donc on va voir les arguments avancés par la première personne de la Sainte Trinité et par la seconde. Par la première en disant que eh bien, il faut que justice se passe. Il n'y a pas eu de miséricorde pour les mauvais anges, donc pour les démons. Donc il n'y a pas de raison qu'il y en ait non plus pour l'homme. Et puis la miséricorde, alors dans Dieu le Fils, hein, qui lui va implorer donc cette miséricorde sur nous. Donc je vous lis ce passage. C'est dans le traité de l'amour de la sagesse éternelle. La sagesse éternelle, donc la sagesse éternelle, c'est le Verbe de Dieu. Donc c'est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Est vivement touchée du malheur du pauvre Adam et de tous ses descendants. Elle voit avec un grand déplaisir son vaisseau d'honneur brisé, son portrait déchiré, son chef-d'œuvre détruit, son vicaire sur la terre renversé. Elle prête tendrement l'oreille à sa voix gémissante et à ses cris. Elle voit avec complaisance les sueurs de son front, les larmes de ses yeux, les peines de ses bras, la douleur de son cœur et l'affliction de son âme. Il me semble voir cette aimable souveraine appeler et assembler une seconde fois, pour ainsi dire, la Sainte Trinité, pour réparer l'homme comme elle avait fait pour le former. Il me semble que dans ce grand conseil, il se fait une espèce de combat entre la sagesse éternelle et la justice de Dieu. Il me semble que j'entends cette sagesse qui, dans la cause de l'homme, dit qu'à la vérité, l'homme mérite, par son péché, avec sa postérité, d'être à jamais damné avec les anges rebelles. Mais qu'il faut avoir pitié de lui, parce qu'il a plus péché par faiblesse et par ignorance que par malice. Donc, premier argument pour toucher Dieu le Père, Dieu le Fils dit que l'homme, s'il est tombé, donc si Adam et Ève sont tombés dans le péché originel, c'est davantage par faiblesse et par ignorance que par malice. Ensuite, elle représente d'un côté que c'est un grand dommage qu'un chef-d'œuvre si accompli demeure pour jamais l'esclave de son ennemi. Donc, deuxième argument, c'est la grandeur de l'homme en lui-même. L'homme qui est quand même une créature de Dieu. L'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Il serait quand même malheureux que l'homme soit ainsi, devienne ainsi, pour jamais l'esclave du démon. Ensuite, toujours l'argument de la sagesse éternelle. Donc, c'est un grand dommage qu'un chef-d'œuvre si accompli demeure pour jamais l'esclave de son ennemi et que des millions de millions d'hommes soit à jamais perdu par le péché d'un seul. Donc, autre argument, c'est Adam et Ève qui ont péché et tous les hommes qui se retrouvent ainsi éloignés de Dieu pour toujours à cause du péché d'un seul homme. Alors ici, je rappelle quand même que Adam a commis son péché en tant que chef de l'humanité. Et donc, ça veut dire que toute l'humanité était en quelque sorte incluse en Adam au moment de son péché. Et c'est la raison pour laquelle ce péché originel touche tous les hommes. Vous voyez ? Donc parfois, on entend des personnes dire « Ouais, c'est pas juste, c'est Adam qui a péché, et puis nous, on paye les pots cassés. » En fait, tous les hommes étaient inclus en Adam au moment de son péché parce qu'il a commis ce péché en tant que chef de l'humanité. Et là où on voit qu'on a un petit peu une compréhension sélective, je dirais, c'est quand on nous dit que notre Seigneur est mort pour tous les hommes, ça pose aucun problème, là on est tous d'accord, ben oui, il est mort pour tous les hommes. Adam, il a péché pour tous les hommes, ouais, là je trouve que c'est un peu exagéré, non, il a péché pour lui, pas pour nous. Oui. Eh bien oui, c'est comme cela. Donc c'est important de le savoir. C'est Saint Paul qui le dit dans son épître aux Romains. Saint Paul, dans l'épître aux Romains, il dit, c'est par le péché que la mort est entrée dans le monde. Et ensuite, il dit en fait que tous ont péché en lui. Tous les hommes ont péché en Adam. Donc on a tous péché en lui. C'est pas nous qui avons péché personnellement, c'est pas un péché personnel, mais Adam nous représentait au moment de son péché. Et c'est pour cela que par l'union que nous avons à notre premier père, eh bien nous naissons nous-mêmes avec cette ce désordre en nous. Le péché, voyez, sépare l'homme de Dieu. Et donc l'homme naît avec cette tâche du péché originel, c'est-à-dire que la volonté de l'homme, au lieu d'être spontanément tournée vers Dieu, est détournée de Dieu. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin du baptême, pour que notre volonté, de nouveau, se tourne vers Dieu. Il y a juste la très sainte Vierge Marie, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est Immaculée Conception, qui n'a pas eu ce désordre en elle. Mais si elle est immaculée, ça veut dire qu'on n'est pas immaculé. Si on n'est pas immaculé, ça veut dire qu'il y a une tâche en nous. Et cette tâche, c'est quoi ? C'est ce désordre de notre volonté qui est détourné de Dieu. Notre volonté est faite pour Dieu, et lorsque nous naissons, elle est détournée de Dieu. Et donc ce n'est que par le baptême que notre volonté peut se tourner vers Dieu. Et le péché, c'est justement cela. Le péché, c'est la volonté de l'homme qui se détourne de Dieu. Donc nous naissons avec une volonté qui est détournée de Dieu. Et donc il est nécessaire qu'il y ait le baptême pour que notre volonté se, de nouveau, puisse retrouver son orientation originale. Ensuite, autre argument de la sagesse éternelle, elle montre les places du ciel vacantes par la chute des anges apostats. Donc, d'après beaucoup de théologiens, les hommes, en fait, lorsqu'ils meurent en état de grâce, ils occupent au ciel les places donc laissées libres par les anges déchus. Donc on dit que le tiers, c'est dans le livre de l'Apocalypse, qu'il est dit que le tiers des anges est tombé dans le péché à la suite donc de Lucifer. Le tiers des anges a suivi Lucifer dans la chute. Donc tous ces anges-là sont en enfer. Et donc tous ces anges-là ont quitté le ciel. Et donc il y a des places libres au ciel. Et bien ces places libres sont occupées par les hommes qui meurent en état de grâce. Et donc justement, la deuxième personne de la Sainte Trinité montre toutes ces places qui sont libres au ciel. C'est quand même dommage que toutes ces places soient libres, parce qu'on pourrait peut-être faire quelque chose pour faire en sorte que les hommes puissent occuper ces places libres. Ce qui d'ailleurs explique aussi un des motifs pour lesquels le démon, vous voyez, les démons nous en veulent, parce qu'ils savent qu'on va prendre leur place là-haut. Et puis enfin, la grande gloire que Dieu recevra dans le temps et l'éternité si l'homme est sauvé. Donc, dernier argument, c'est la gloire de Dieu qui va rejaillir si l'homme est sauvé. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que la nuit pascale, nous dirons, en parlant du péché originel, ô heureuse faute qui nous a valu un tel rédempteur. Alors ça, c'est les arguments de la deuxième personne de la Trinité. Mais maintenant, il va y avoir Dieu le Père. Il me semble que j'entends la justice, donc c'est Dieu le Père, qui répond que l'arrêt de mort et de damnation éternelle est porté contre l'homme et ses descendants, et qu'il doit être exécuté sans remise et sans miséricorde, ainsi que contre Lucifer et ses adhérents. Le premier argument, il n'y a pas une miséricorde pour les anges, je ne vois pas pourquoi il y en aurait pour les hommes. Deuxième argument, l'homme est un ingrat pour les bienfaits qu'il a reçus. Et troisième argument, il a suivi le démon en sa désobéissance et en son orgueil, il doit le suivre dans ses châtiments. Alors, face à ces arguments de la justice, eh bien, la deuxième personne de la Sainte Trinité se demande qu'est-ce qu'on va faire. Et donc là, c'est là qu'on va voir cet élan, vous voyez, de générosité. La deuxième personne de la Sainte Trinité, voyant qu'il n'y avait rien pour apaiser la juste colère de Dieu, donc va décider de s'incarner pour nous sauver. La sagesse éternelle, voyant qu'il n'y avait rien dans l'univers qui fût capable d'expier le péché de l'homme, de payer la justice et d'apaiser la colère de Dieu, et voulant cependant sauver le pauvre homme qu'elle aimait d'inclination, trouve un moyen admirable. Et donc là, on voit l'âme contemplative de Saint Louis-Marie de Montfort qui s'arrête justement sur ce fait, donc historique, si on peut dire. Chose étonnante, amour incompréhensible qui va jusqu'à l'excès. Cette aimable et souveraine princesse s'offre elle-même en sacrifice à son père pour payer sa justice, pour calmer sa colère et pour nous retirer de l'esclavage du démon et des flammes de l'enfer et nous mériter une éternité de bonheur. Et après cette décision, la sagesse éternelle, alors on va voir là, enfin, donc le sceau divin. Donc Dieu le Père va accepter donc cette offre de la deuxième personne de la Trinité. Son offre est acceptée, le conseil en est pris et arrêté, la sagesse éternelle ou le Fils de Dieu se fera homme dans le temps convenable et dans les circonstances marquées. Donc tout d'abord, vous voyez, premier aspect dans notre méditation, si vous restez après quelques minutes, si vous essayez de rester un petit peu sur sur notre Seigneur Jésus-Christ, vous pouvez vous arrêter à cette grande générosité de la deuxième personne de la Sainte Trinité, donc qui a accepté de venir sur la terre pour nous racheter. Et je pense qu'il est important de temps en temps au moins de s'en souvenir. Que ça ne paraisse pas naturel, de se dire, bon oui, c'est normal, la deuxième personne de la Sainte Trinité est venue nous racheter. Non, c'est vraiment un acte d'amour infini. Après avoir vu cette générosité de la deuxième personne de la Sainte Trinité, maintenant, deuxième aspect, donc je cite ici Dom Marmion, qui va montrer la disposition d'âme donc de notre Seigneur venant en ce monde. Et en fait, Dom Marmion va se contenter de commenter le passage d'un psaume qui a été repris par saint Paul dans son épître aux Hébreux. Donc dans son épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 5 à 7, saint Paul décrit la disposition de notre Seigneur venant en ce monde. Et pour cela, il cite le psaume 39, versets 7 à 9. Donc voici ce passage. Ô Père, donc c'est notre Seigneur qui s'adresse à nouveau à son Père, vous ne vouliez plus de ces offrandes, de ces sacrifices qui ne sont pas suffisamment dignes de vous, mais vous m'avez formé un corps. Et pourquoi me l'avez-vous donné? Car je viens, ô Père, accomplir votre volonté. Vous exigez que je vous l'offre en sacrifice, me voici. En tête du livre de ma vie, il est écrit que je dois, ô Père, faire votre volonté. Ainsi je le veux, parce qu'il vous est agréable. Donc ce texte indique, si vous voulez, donc un élément essentiel de la religion, c'est le sacrifice. Il n'y a pas de religion sans sacrifice. Le sacrifice est un élément essentiel de la vertu de religion. Parce que le sacrifice consiste, en fait, à offrir à Dieu une victime d'expiation, en particulier, pas uniquement d'expiation, ça peut être aussi une victime d'action de grâce, une victime de donc qui est intermédiaire entre Dieu et nous pour des demandes, mais la victime est surtout essentiellement une victime d'expiation. Donc dans la mesure où l'homme est pécheur, il cherche à manifester à Dieu son repentir. Et pour cela, en fait, il offre à Dieu une créature pour se rendre Dieu favorable. Dans tout péché, il y a une attache déréglée à la créature, que ce soit une attache déréglée à nous-mêmes, souvent, ou une attache déréglée à une autre créature. Dans tout péché, il y a une attache à la créature. Et donc, en sacrifiant une créature, l'homme, en fait, veut montrer par là qu'il désire rendre à Dieu ce qu'il lui a pris, d'une certaine manière, injustement. Et donc, il offre à sa place une créature. Et donc c'est tout le symbole des sacrifices qui ont existé dans l'Ancien Testament. Sacrifice d'agneau, sacrifice de taureau ou d'autres animaux. Ou parfois c'était simplement des fruits qui étaient offerts à Dieu, mais c'était souvent quand même des animaux. Et donc ici, dans ce passage, saint Paul dit que Dieu, notre Seigneur, en venant dans ce monde, a bien vu l'insuffisance des sacrifices de l'Ancien Testament. Parce que ces sacrifices, bien sûr, étaient le symbole, étaient le signe du sacrifice de notre Seigneur. Et donc ça, c'est vrai notamment, spécialement, de deux types de sacrifices. Le sacrifice de l'agneau pascal, vous voyez. C'est la raison pour laquelle, lorsque saint Jean-Baptiste a présenté notre Seigneur, il a dit « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. » Donc saint Jean-Baptiste a désigné notre Seigneur comme étant l'agneau. Ça veut dire que les agneaux qui étaient immolés dans l'Ancien Testament étaient une figure de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le véritable agneau qui va s'offrir à son Père par amour pour nous. Ou encore, il y avait aussi donc des sacrifices de taureaux. Eh bien, le taureau, en fait, c'est est l'emblème du prêtre, voyez. Et donc, le sacrifice du taureau montrait que notre Seigneur Jésus-Christ allait être victime, mais en même temps prêtre. Prêtre et victime à la fois. Donc, c'était le symbole, en fait, de ce taureau. Donc, tous ces sacrifices de l'Ancien Testament n'avaient de valeur qu'en tant qu'ils figuraient le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc notre Seigneur, voyant l'insuffisance des sacrifices de l'Ancien Testament, décide dans un acte de générosité inouïe de s'offrir lui-même pour nous racheter de nos péchés. Et donc en venant en ce monde, la disposition qu'il a, c'est la soumission totale à la volonté de son Père, voyez. Il dit, en tête du livre de ma vie, il est écrit que je dois, ô Père, faire votre volonté, ainsi je le veux, parce qu'il vous est agréable. Donc de quelle manière notre Seigneur va apparaître comme prêtre et victime, en se soumettant à la volonté de son Père. Et on voit que la très sainte Vierge Marie, eh bien, elle-même, lorsqu'on lui a demandé de devenir la mère de notre Seigneur, elle dira aussi de son côté, « Fiat mihi, secundum verbum tuum, qu'il me soit fait selon votre parole. » Donc on voit bien que l'attitude de notre Seigneur, en réparation du péché de nos premiers parents qui ont dit non à Dieu, dans le péché on dit non à Dieu, eh bien, notre Seigneur et la très sainte Vierge Marie réparent ce péché en disant oui à Dieu. Donc, de quelle manière on peut réparer le péché? Eh bien, en se soumettant à la volonté de Dieu. Et ce qui est admirable, alors, en notre Seigneur, c'est que cette disposition de oui, cette attitude, donc, de soumission totale à la volonté de son Père, ne sera pas en lui une attitude ponctuelle, passagère, mais une attitude constante. Toute sa vie, notre Seigneur restera fidèle à ce oui initial. Et c'est ça qui est magnifique, de voir cette fidélité à ce oui initial. Déjà, dans le mariage, c'est très beau de voir deux jeunes qui se promettent, vous voyez, ce oui réciproque, mais c'est encore plus beau lorsqu'on voit deux personnes qui arrivent en fin de vie et qui sont restées fidèles à ce oui initial. Donc je vous cite ici Dom Marmion, qui décrit donc cette attitude de notre Seigneur qui s'offre totalement avec une grande générosité à Dieu son Père. D'un regard, l'âme de Jésus embrasse les siècles qui furent avant elle. Elle voit, avec l'abîme où gît l'humanité entière, impuissante à se libérer, la multiplicité et l'insuffisance foncière de tous les sacrifices de l'ancienne loi. Car la créature, si parfaite qu'elle soit, ne peut dignement réparer l'injure que le péché a commise à l'égard du Créateur. Elle regarde le programme d'immolation que Dieu demande d'elle pour réaliser le salut du monde. Quel instant solennel pour l'âme de Jésus. Quel instant aussi pour le genre humain. Et que fait cette âme? Par un mouvement d'amour intense, elle se livre tout entière pour parfaire l'œuvre humano-divine qui peut seule rendre gloire au Père en sauvant l'humanité. Au Père, etc. Donc c'est la citation que je viens de faire. Ensuite, Dom Marmion ajoute... D'une volonté parfaite, le Christ a accepté cette somme de douleur qui commence à l'humilité de la crèche pour ne s'achever qu'à l'ignominie de la croix. Dès son entrée ici-bas, le Christ s'offre en victime. Le premier acte de sa vie est un acte sacerdotal. Quelle créature mesurera l'amour dont est rempli cet acte sacerdotal de Jésus? Qui en connaîtra l'intensité et en décrira la splendeur? Le silence de l'adoration peut seul le louer quelque peu. Jamais le Christ n'a rétracté cet acte ni rien repris de ce don. Bien plus, tout dans sa vie va être ordonné vers son sacrifice sur la croix. Lisez l'Évangile dans cette lumière, vous verrez combien dans tous les mystères ou les états de Jésus se rencontre une part de sacrifice qui le mène peu à peu au sommet du calvaire. Tellement le caractère de pontife, de médiateur, de sauveur est essentiel à sa personne. Nous ne saisirons point la vraie physionomie de la personne de Jésus si nous ne la plaçons constamment en regard de sa mission rédemptrice par le sacrifice et l'immolation de lui-même. C'est pourquoi, quand saint Paul disait qu'il ramène tout à la connaissance du mystère de Jésus, il ajoutait « et de Jésus crucifié ». Voyez, le Christ naît dans le dénuement le plus absolu. Il doit fuir en terre étrangère pour échapper à la fureur d'un tyran. Il connaît le labeur dur et caché dans l'atelier de Nazareth. Pendant sa vie publique, il n'a pas où reposer la tête. Il est en butte aux persécutions des pharisiens, ses plus mortels ennemis. Il éprouve la faim, la soif, la fatigue. Bien plus, il brûle d'achever son martyre. Il y a en Jésus, si l'on peut ainsi parler, comme une espèce d'enthousiasme pour son sacrifice. Voyez encore dans l'Évangile, lorsque notre divin Sauveur commence à découvrir à ses apôtres petit à petit, pour ménager leur faiblesse, le mystère de ses souffrances. Un jour, il leur dit qu'il fallait qu'il se rendît à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part de ses ennemis et qu'il fut mis à mort. Alors Pierre de dire aussitôt, le prenant à part, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne vous arrivera pas. » Mais Jésus réplique tout de suite, « Retire-toi de moi, tu mets un scandale, car tu n'as pas l'intelligence des choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Au milieu des splendeurs de la transfiguration sur le Tabor, de quoi le Sauveur s'entretient-il avec Moïse et Élie de sa passion prochaine? Le Christ avait soif de donner à son Père la gloire que son sacrifice devait lui procurer. Il veut tout accomplir jusqu'à un iota, jusqu'au dernier détail. Quand à l'agonie les angoisses et les douleurs s'accumulent dans son âme, il les sent si profondément. « Ô Père, dit-il, s'il est possible, éloignez de moi ce calice. » Pourtant, il ne veut finalement qu'accomplir la volonté de son Père. Néanmoins, que votre volonté se fasse et non pas la mienne. Enfin, sur le calvaire, il consomme son immolation et peut dire avant de rendre le dernier soupir qu'il a réalisé dans la plénitude le programme que son Père lui avait donné, « Consumatum est, tout est consommé ». Ce cri final de la victime divine sur la croix répond à l'Ecce Venio de l'incarnation dans le sein de la Vierge. Donc voyez, notre Seigneur, toute sa vie, n'a eu qu'une orientation, accomplir la volonté de son Père. Et pour cela, il a voulu accepter d'être à la fois prêtre et victime, dès l'instant de son incarnation. Parfois, on pourrait avoir tendance, si vous voulez, à découper la vie de notre Seigneur en pensant que notre Seigneur apparaît comme victime uniquement au calvaire, voyez, ou le soir du Jeudi Saint. Eh bien, c'est faux. C'est dès le premier instant de son incarnation que notre Seigneur apparaît comme prêtre et comme victime. Il apparaît comme prêtre dès l'instant de son incarnation, puisque le prêtre, c'est le pont, c'est le pontife. Or, notre Seigneur est à la fois Dieu et homme. En tant qu'homme Dieu, il est le pontife, il est prêtre. Mais la fonction du prêtre, c'est d'offrir la victime. Il n'y a pas de prêtre sans victime, il n'y a pas de prêtre sans sacrifice. Et donc, notre Seigneur étant prêtre parce qu'il est l'homme Dieu, il est en même temps la victime. Et il apparaît comme victime dès le premier instant de son incarnation. Et il est comme victime à la fois parce qu'il a cet élan, ce don de lui-même à Dieu son Père. Et donc c'est ça en fait. Hein. Accepter d'être victime, ça veut dire se soumettre constamment à la volonté de son Père. Et notre Seigneur s'est toujours soumis à la volonté de son Père. Il est aussi comme victime dans la mesure où, à la différence des autres enfants, notre Seigneur a pleine connaissance, vous voyez, il a usage de son intelligence dès le premier instant de sa conception. Et donc, dans la mesure où il est l'homme-Dieu, il voit dès l'instant de sa conception la somme de souffrances qu'il devra endurer pour nous sauver. Il connaît à l'avance toutes les prophéties. Il sait très bien tout ce qu'il devra souffrir. Et donc, le fait d'avoir sous les yeux la somme de souffrances qu'il va endurer fait de lui une victime. Vous voyez. Si vous, on vous apprend que vous devrez mourir dans des souffrances atroces, ben c'est certainement que régulièrement vous y penserez. Vous voyez. Et ce sera pour vous occasion de souffrance. Dès le jour où on a dit à la très sainte Vierge Marie, donc lorsque notre Seigneur a été présenté au temple, un glaive de douleur te transpercera l'âme. Eh bien, depuis ce jour-là, jusqu'à sa mort, voyez, la sainte Vierge a ressenti ce glaive de douleur. Eh bien, notre Seigneur, connaissant la somme de souffrance qu'il allait endurer, a ressenti cette souffrance dès le moment de son incarnation. Donc, notre Seigneur apparaît donc comme prêtre et comme victime dès l'instant de son incarnation. Ensuite, notre Seigneur apparaît aussi plein de grâce. Ça, c'est un autre aspect, vous voyez. J'ai dit que notre Seigneur est le pont. Il est le pontife, il est le pont. Maintenant, sur ce pont, en quelque sorte, s'écoule la grâce de Dieu qui doit nous toucher. Toutes les grâces nous viennent par notre Seigneur Jésus-Christ, vous voyez. Donc, sur le pont qu'est notre Seigneur, s'écoule la grâce de Dieu. Notre Seigneur est plein de grâce et de vérité. Et donc, nous-mêmes, nous recevrons les grâces par notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette plénitude de grâce se manifeste spécialement par ses effets. Demain, on parlera un petit peu de la grâce et on pourra voir que la grâce va s'épanouir en vertu. Toutes les vertus que nous avons, les vertus surnaturelles, sont enracinées dans la grâce. Eh bien, pour mesurer le degré de grâce de notre Seigneur, il faut regarder les vertus accomplies par notre Seigneur. Donc, les vertus de notre Seigneur nous manifestent, si vous voulez, l'intensité de la grâce en lui. Et donc, ici, il y a encore un portrait qui est fait de notre Seigneur, maintenant, par le père Garrigou Lagrange, où il montre un petit peu cet équilibre qu'il y avait en notre Seigneur. Nous sommes tous appelés à imiter un petit peu notre Seigneur dans notre vie. Donc, c'est important de porter un regard, là aussi, sur les vertus de notre Seigneur, pour voir ensuite comment les pratiquer nous-mêmes dans notre vie. Cette plénitude de grâce, dit donc le père Garrigou Lagrange, s'est manifestée par l'harmonie merveilleuse des vertus en apparence les plus opposées. L'harmonie qui est l'unité dans la diversité est d'autant plus belle que l'unité est plus profonde dans une diversité plus complète, que l'intimité est plus foncière entre des termes plus éloignés. Or, en Jésus se concilie admirablement le surnaturel le plus élevé et le naturel le plus simple, le plus spontané. Souvent, au contraire, lorsque nous voulons être naturels, nous oublions les exigences de la grâce, ou nous tombons dans le naturalisme pratique de la tiédeur. Ou bien, lorsque nous voulons, sans passer par les intermédiaires indispensables, arriver à la perfection surnaturelle, nous tombons dans une rigidité orgueilleuse qui rappelle celle des jansénistes, ou dans le faux surnaturel d'une exaltation qui frise l'extravagance. J'espère pas trop. En Jésus, nature et grâce s'harmonisent admirablement, parce qu'il a la plénitude de la grâce et que sa nature est pleinement soumise. En lui s'harmonise aussi la sagesse la plus sublime et le sens pratique le plus avisé. Nous autres, il nous arrive ou bien d'être trop abstraits, perdus dans des vagues généralités, ou au contraire de nous arrêter outre mesure aux détails sans voir les choses d'assez haut. En Jésus s'unissent de même la justice parfaite et la miséricorde inépuisable, alors que souvent chez nous, la justice tourne à la raideur et la miséricorde à la faiblesse. Rappelons-nous le pardon du Sauveur à la femme adultère, quelle fermeté et à la fois quelle bonté. En lui s'harmonise également une dignité souveraine et la plus profonde humilité, tandis que parmi les hommes, les magnanimes sont souvent un peu hautains, et les âmes naturellement modestes restent fréquemment pusillanimes et sans énergie. En Jésus se concilie enfin la force la plus héroïque et la plus grande douceur dans le soupir du crucifié qui prie pour ses bourreaux. Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Impossible de trouver harmonie morale plus haute, plus profonde, d'un rayonnement plus étendu, d'une splendeur plus éclatante, dans une plus noble sobriété d'expression. Donc essayons, lorsque nous lisons un passage d'évangile, de retrouver un petit peu ces vertus en notre Seigneur. Maintenant, sur toutes ces vertus, je voudrais m'arrêter à une de ces vertus qui va nous toucher particulièrement, c'est la charité du cœur de Jésus. Donc, comme je viens de le lire, le père Garrigou Lagrange dit qu'en notre Seigneur, s'harmonise la sagesse la plus sublime, le sens pratique le plus avisé, et qu'il est à la fois très surnaturel et en même temps très naturel. Alors c'est vrai que quand on regarde les apôtres qui ont côtoyé le plus notre Seigneur, dans les contacts qu'ils ont eus avec notre Seigneur, voyez, ils ont ressenti à la fois ce double aspect de la divinité de notre Seigneur et de son humanité. Donc ils ont touché du doigt, je dirais, à la fois donc la bonté de notre Seigneur, cette délicatesse de notre Seigneur, et puis en même temps aussi, à d'autres moments alors, ils ont eu affaire à sa transcendance, donc à sa grandeur si vous voulez. Donc il y a des moments où ils étaient vraiment en phase avec lui, et puis d'autres moments où alors il y a un décalage qui est très grand, vous voyez. Et ce même décalage d'ailleurs se retrouve entre notre Seigneur et sa mère, vous voyez. Par exemple, quand notre Seigneur reste pendant 3 jours... au temple, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il a agi comme ça, quoi? Il aurait très bien pu prévenir la Sainte Vierge. Ça aurait été beaucoup plus simple. Elle ne serait pas angoissée pendant 3 jours. Et il part comme ça sans rien dire. Voyez. Alors que lui, l'enfant modèle, l'enfant sage. Voyez. Et donc là, c'est la transcendance. Voyez. Et bien, les apôtres, c'était un petit peu pareil. D'un côté, notre Seigneur invite Saint-Pierre à marcher sur l'eau. Et puis au moment où il marche sur l'eau, bah, à un moment donné, Saint-Pierre se met à s'enfoncer. Mais pourquoi il a permis qu'il s'enfonce, bon. Ou alors il va dans la barque, mais pourquoi il dort? Pourquoi il dort en ce moment? Au milieu de la tempête. C'est juste au moment de la tempête qu'il se met à dormir. Enfin, qu'il dorme encore quand la mer est calme, mais pas dans la tempête, quoi. Enfin, donc il y a toujours dans l'attitude de notre Seigneur, il y a souvent des choses qui nous échappent. Mais maintenant, je voudrais m'arrêter ici à cette bonté de notre Seigneur. Donc je voudrais vous montrer tout d'abord que cette bonté est un élément, je dirais, qui est essentiel, voyez, à la vie de notre Seigneur. J'ai dit tout à l'heure que notre Seigneur apparaît comme prêtre et comme victime dès le premier instant de son incarnation. Pourquoi notre Seigneur est venu sur la terre? Il est venu nous sauver, voyez. Notre Seigneur est le sauveur. Jésus veut dire sauveur. Donc il vient essentiellement pour cela. Il vient pour nous sauver. Il ne vient pas forcément pour nous sauver de la chaleur, de la grippe aviaire ou de je ne sais pas quoi. Voyez. Il vient nous sauver du péché. Voyez. Il vient nous conduire au ciel. Donc par des chemins qui parfois sont un peu rudes. Mais il est venu nous sauver. Et donc toutes les paroles de notre Seigneur vont bien dans ce sens. Voyez. Et donc il faut essayer d'entendre ces paroles et se dire que l'attitude que notre Seigneur a eue vis-à-vis de ses contemporains, il l'a aujourd'hui vis-à-vis de moi, voyez. C'est important qu'il y ait un contact personnel entre votre âme et l'âme de notre Seigneur, voyez. Notre Seigneur n'aime pas les âmes en série, je dirais. Il aime les âmes individuellement. Il vous aime personnellement. Et il a un regard spécial porté sur vous. Et il vous aime comme vous êtes. Il n'aime pas vos défauts, mais il vous aime comme vous êtes. Et donc, il faut essayer de croiser ce regard de notre Seigneur et donc croire dans cette bonté de notre Seigneur. On voit par exemple que, dans l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, Saint-Pierre qui marchait sur l'eau, lorsqu'il a douté, eh bien notre Seigneur l'a pris par la main et dit « Pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi ?» Oui. Donc notre Seigneur aime qu'on lui fasse confiance. Donc il faut voir qu'il permet certaines épreuves pour tester notre fidélité. Et à ce moment-là, nous devons manifester notre fidélité. Donc si chaque fois que notre Seigneur teste notre fidélité, c'est tout de suite panique à bord, voyez. On n'est pas encore dans la ligne, ça manque, on manque encore de foi. Donc pour nous rassurer sur cette bonté de notre Seigneur, eh bien écoutons-le, voyez. Spécialement, ça c'est vrai après le péché, justement. Cette instruction est faite après l'instruction sur le péché. C'est que avant le péché, voyez, le démon, sa tendance, c'est d'enrober le péché pour nous laisser croire que c'est pas si grave que ça, qu'on pourra toujours se confesser, que pour avant. Ça c'est avant. Donc il essaie d'enrober le péché pour essayer de montrer sous un espèce de beau jour, si on peut parler de beau jour pour le péché. Mais une fois qu'on est tombé, alors là, au contraire, il va enlaidir encore plus le péché et nous montrer qu'on est foutu, qu'on n'arrivera jamais à s'en sortir et que c'est pas la peine et que n'importe comment on l'a déjà essayé, voilà. Et ça, c'est la tactique du démon, vous voyez. Et donc pour éviter de tomber dans cette tactique-là, de tomber dans ce piège du démon, c'est capital pour nous de garder confiance dans notre Seigneur. Avoir cette confiance, non pas pour pécher davantage, bien sûr, mais pour nous réfugier davantage près de notre Seigneur. Plus nous nous réfugierons près de lui, eh bien, moins nous éviterons les chutes. Si nous tombons, c'est toujours parce que nous sommes un peu écartés de Dieu, déjà. Si nous sommes toujours dans le sein de notre Seigneur, ou au pied de notre Seigneur, ou dans les bras de notre Seigneur, ou à ses pieds, eh bien, certainement, nous ne tomberons pas. Donc, la méditation sur la réflexion sur la miséricorde de notre Seigneur, donc, ces réflexions sont capitales pour nous aider à vivre près de lui. Et si alors par malheur nous tombons, eh bien ces instructions, ces réflexions nous aideront aussi à revenir vers lui, voyez, à ne pas écouter le démon qui veut nous faire croire que tout est foutu, qu'on n'arrivera jamais. D'ailleurs, il y a un passage comme ça qu'on lit dans la vie de Sainte Catherine de Sienne, je crois, où à un moment donné, Sainte Catherine de Sienne, c'est où Sainte Catherine de Sienne ou Sainte Angèle de Foligno, je ne sais plus. En tout cas, une grande sainte avait eu un moment de découragement. Et en ce moment-là, le démon en profite pour venir voir cette sainte et puis pour lui dire. C'est pas la peine, quoi que tu fasses, t'es foutu. Alors, en ce moment-là, elle m'a dit, mais si quoi que je fasse, je suis foutu, en ce moment-là, c'était pas la peine de te déplacer pour me le dire. Donc, ça l'avait, la répartie des saintes. Donc, cela doit aussi vous rassurer. Donc, notre Seigneur dit, dans l'évangile, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Saint Marc, chapitre 9, verset 13. Donc, il peut arriver que, par exemple, au cours d'une retraite, on prend un peu plus conscience de nos faiblesses. Et j'espère, d'ailleurs, c'est normal, c'est dans l'ordre des choses. Et donc, en ce moment-là, on peut, en ce moment-là, être un peu déstabilisé par cela. Eh bien non, justement, notre Seigneur dit, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Du moment que nous reconnaissons nos faiblesses, hein, voyez, nous sommes dans le droit chemin. Celui qui est vaincu, ce n'est pas celui qui ne tombe jamais, c'est celui qui reste à terre. Mais dès lors qu'on désire se relever, qu'on désire avancer, on est dans la bonne direction. Oui. Saint Matthieu, chapitre 9, verset 13. Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous soulagerai. Saint Matthieu, chapitre 11, verset 28. Vous tous qui peinez, venez à moi. Donc il faut croire, le Seigneur peut nous consoler, peut nous soulager. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Donc ça veut dire Saint Jean chapitre 12 verset 32. C'est le dernier discours public de notre Seigneur. Notre Seigneur dit, lorsque je serai élevé de terre, lorsque je serai sur la croix, j'attirerai tout à moi. Donc notre Seigneur, par sa mort, vous voyez, nous attire à lui. Ou encore, ayez confiance, j'ai vaincu le monde. Saint Jean chapitre 16 verset 33. Donc aujourd'hui, où on a l'impression que le monde est, et d'ailleurs c'est vrai, c'est pas qu'une impression, est en grande partie sous la coupe du démon, c'est évident, eh bien on peut se dire, mais est-ce que le bon Dieu finira bien par avoir le dernier mot, vous voyez? Bien, notre Seigneur ne dit pas « je vaincrai le monde », il dit « j'ai vaincu le monde ». Notre Seigneur est dans l'éternité, il est au-delà du temps. Donc quand on est du côté du bon Dieu, on est du bon côté. Donc il faut croire dans la puissance de Dieu. Et c'est souvent d'ailleurs dans les périodes où humainement tout semble désespéré, c'est en ce moment-là que le bon Dieu intervient. Ou dans les paraboles aussi, on va retrouver cette miséricorde. La parabole de la brebis perdue. Il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de se repentir. Saint Luc, chapitre 15, verset 7. Et ça, je l'ai mieux compris depuis que je suis prêtre. Voyez. Le bon Dieu donne au prêtre une joie particulière lorsque une âme revient, surtout de loin. Voyez. Bon, on aime bien nos bons fidèles, bien sûr. Mais il y a une joie spéciale que le bon Dieu donne lorsqu'une âme revient de plus loin. Donc c'est sûr qu'il y a de la joie au ciel lorsque le pécheur se repent. La drame égarée va dans le même sens. La parabole de l'enfant prodigue, vous le savez, hein. Donc avec quel soin le père de l'enfant prodigue accueille son fils qui revient vers lui alors qu'il a dissipé tous ses biens. Donc là, c'est une image, là encore, de l'accueil de Dieu le Père. Oui. Ou encore, un autre passage que j'aime beaucoup, c'est l'attitude de notre Seigneur vis-à-vis de la Samaritaine. Donc, chapitre 4 de Saint Jean, versets 1 à 42. Donc, notre Seigneur est là, la Sainte Écriture nous dit qu'il était fatigué du chemin. Donc, il a connu aussi la fatigue. Notre Seigneur était vraiment Dieu, mais vraiment homme aussi. Donc, il était fatigué, donc il s'assoit sur la margelle au bord du puits de Jacob. Et donc, il demande aux apôtres d'aller faire les courses. Et donc, il demande d'aller faire les courses pour justement profiter de pouvoir parler avec cette Samaritaine et pour profiter de toucher l'âme de cette Samaritaine. Donc, il attend la Samaritaine, donc, et ça montre là aussi cette patience de Dieu. Vous voyez, le bon Dieu nous attend. Il nous attend pour intervenir au bon moment. Et lorsqu'il aperçoit la Samaritaine, il fait le premier pas. C'est encore une nouvelle leçon. Vous voyez. C'est notre Seigneur qui va vers la Samaritaine. Et par là, il brise d'ailleurs les convenances, puisque les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Mais notre Seigneur sait très bien que toute loi est ordonnée au bien, et donc, puisque c'est le bien la Samaritaine qui cherche, eh bien, donc, il peut très bien, bien sûr, lui parler. Alors, pourquoi les Juifs, d'ailleurs, n'avaient pas de rapport avec les Samaritains? C'est parce que les Samaritains étaient, en fait, mi-Juifs, mi-païens. Et donc, les Juifs considéraient avec mépris les Samaritains, parce que donc, sur le plan religieux, donc ils étaient loin d'être des modèles, et sur le plan moral aussi, ça va souvent de pair, et c'est le cas d'ailleurs de cette Samaritaine, comme on va le voir. Et donc, notre Seigneur, loin d'avoir du mépris pour cette femme, pour essayer de lui faire du bien, il se met à sa portée. Il devient, en quelque sorte, son débiteur. Vous voyez. Il commence pas par lui faire une leçon de morale, ça n'aurait pas marché, quoi. Donc si elle avait commencé par lui dire t'as eu 5 maris, ça va pas là, c'est quelque chose qui cloche dans ta vie, bon, c'était fini. Donc le rapport n'aurait jamais, il n'aurait pu lui faire du bien. Il commence par lui dire donne-moi à boire. Tiens, il me demande à boire. Bon. Alors elle, bon, va chercher à lui faire plaisir. Donc et là, comme ça, le contact, c'est un contact d'abord humain, vous voyez, hein, qui est par lequel notre Seigneur amorce, vous voyez, la pompe. Et puis alors, petit à petit, puisque après avoir capté la bienveillance de cette femme, eh bien, il va essayer de l'amener petit à petit à réfléchir sur son identité. Donc notre Seigneur, lorsqu'il touche une âme, vous voyez, c'est progressivement aussi qu'il amène cette âme là où il veut en venir. Et donc, il l'amène petit à petit, donc il la fait progresser sur son identité. Et puis, en ce moment-là, à un moment donné, donc il va mettre le doigt sur la plaie. Il va dire « va chercher ton mari ». Et donc, c'est pas lui qui lui fait le reproche d'avoir cinq maris. Il commence par lui dire simplement, va chercher ton mari. Et c'est elle qui dit, je n'en ai pas de mari. Et c'est là, en ce moment-là, qu'il va, en ce moment-là, profiter du fait qu'elle dit qu'elle n'a pas de mari pour lui dire, tu fais bien de le dire, en fait, tu en as eu cinq et celui avec lequel tu vis n'est pas le tien. Et donc, notez que notre Seigneur a suscité cet aveu de la Samaritaine lorsque ses apôtres étaient partis faire les courses. Et donc, on voit par là comment le bon Dieu, voyez, c'est la difficulté qu'on a à reconnaître nos fautes, et donc il essaie d'en faciliter l'aveu par ces circonstances. Et on peut noter la même discrétion de l'Église pour le sacrement de pénitence. Et l'Église ne demande pas qu'on dise à tout le monde toutes nos fautes. Ouf. Elle nous demande simplement de le dire en secret au prêtre. Et pour être sûr que le prêtre observe bien ce secret, donc elle menace le prêtre d'excommunication pour le cas où il révélerait donc ce qu'il aurait appris en confession. Et là, vous voyez le contraste qu'il y a entre la bonté de Dieu à travers son Église et puis l'attitude, vous voyez, du monde. Vous voyez. Lorsqu'il y a un procès civil, la première chose, vous aurez votre photo en première page, donc et puis après, tous les détails sont donnés sur les délits avec toutes les circonstances aggravantes. Et donc, on voit qu'il y a deux poids, deux mesures. Donc, remercions le bon Dieu dans sa grande miséricorde de nous demander, certes, de reconnaître notre faute. Vous voyez, dans tout péché, il y a une forme d'orgueil. Et donc, l'orgueil se répare par l'humilité. Vous voyez. Et donc, il y a une humiliation que le bon Dieu nous demande, l'humiliation de la reconnaissance de nos fautes, pour pouvoir retrouver son amitié ou grandir dans son amitié. Alors maintenant, on retrouve encore cette miséricorde de Dieu dans les miracles accomplis par notre Seigneur. Par exemple, avant la multiplication des pains, notre Seigneur dit « J'ai pitié de cette foule ». Vous voyez. Donc entendons notre Seigneur dire cela. Vous voyez. Il a pitié de cette foule. C'est-à-dire notre Seigneur est attentif, il voit ces âmes qui ont faim, et donc il a pitié de cette foule. Il a pitié de cette foule parce qu'elles ont faim de nourriture terrestre. Il a pitié d'elles aussi parce qu'elles ont faim de nourriture céleste, bien sûr, de nourriture spirituelle. Et le Seigneur veut leur donner cette nourriture spirituelle. On voit cela encore, cette miséricorde dans la guérison des 10 lépreux. Voyez, la lèpre est une image un petit peu du péché. Ce que la lèpre produit sur le corps, le péché le produit sur l'âme. En guérissant les 10 lépreux, notre Seigneur montre le désir qu'il a de guérir nos âmes. Voyez. Ou encore en guérissant le paralytique de Capharnaüm. Là encore, le paralytique est une image aussi, malheureusement, du pécheur. En effet, lorsque on tombe dans une faute grave, eh bien, à ce moment-là, on est paralysé. Tous les actes que nous posons, même les actes bons, sont nuls pour le ciel. On ne peut pas acquérir un seul mérite en état de péché mortel. Donc, il faut attendre de retrouver la grâce pour retrouver l'amitié de Dieu et pour pouvoir, de nouveau, avancer vers le ciel. Donc, notre Seigneur va guérir ce paralytique. Et pour montrer le lien qu'il y a, justement, entre la paralysie du péché et la guérison, donc entre la paralysie qu'est le péché, donc et la guérison qu'il va obtenir, il dit afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés, je te le dis, lève-toi, prends ton grabat et rentre chez toi. Et donc ce paralytique va prendre son grabat et va rentrer chez lui. Cette miséricorde nous touche aussi énormément, spécialement en lisant la Passion. Plus on lit les textes de la Passion, plus on est touché par cette attitude de notre Seigneur, voyez. Nous-mêmes, on voit bien que, bon, on a déjà du mal à être généreux, mais on est facilement généreux vis-à-vis de ceux qui sont généreux avec nous. Mais continuer à être généreux vis-à-vis de ceux qui ne sont pas aimables, c'est beaucoup plus difficile, voyez. Eh bien, notre Seigneur, alors que on le met à mort dans des souffrances atroces, alors qu'on le blasphème, qu'on l'injurie, qu'on le bafoue de mille et une manières, notre Seigneur ne cesse tout au long de sa passion de manifester sa miséricorde. Voyez. Notre Seigneur ne reste pas donc sur le mal qu'on lui fait, mais il arrive à vaincre le mal par le bien. Donc il va susciter le repentir de Saint-Pierre par son regard, par exemple. Il va éveiller la contrition chez les femmes de Jérusalem. La première parole sur la croix, c'est très impressionnant. On voit que quand on lit donc les évangiles, et qu'on arrive à ce passage-là, donc notre Seigneur qui est crucifié, donc on voit déjà tous les tourments qu'il a endurés, l'agonie, la flagellation, le couronnement d'épines, le port de la croix, donc des souffrances terribles, la crucifixion elle-même. Première parole de notre Seigneur, eh bien, c'est une parole de miséricorde. Alors que les évangélistes qui nous rapportent cette parole-là, et Saint Luc, qui est en particulier l'évangéliste de la miséricorde, eh bien, nous signalent spécialement que tous ceux qui l'entourent le blasphèment. Vous voyez. Que ce soit les soldats, que ce soit même les larrons, au début, qui le blasphémaient tous les deux. Donc, il n'y a que jurons et blasphèmes. Et notre Seigneur, la première parole, une parole de miséricorde. Donc, il faut vraiment avoir une grande confiance, vous voyez, dans la miséricorde de Dieu. Douter de la miséricorde de Dieu, c'est vraiment, je dirais, ça blesse vraiment le cœur de notre Seigneur. Et on va voir cela encore aussi après la résurrection. Après la résurrection, notre Seigneur continue à manifester sa miséricorde, par exemple, vis-à-vis des apôtres, voyez. Vu le comportement des apôtres le jeudi saint, voyez, Judas, c'est fini pour lui, puisqu'il s'est pendu. Mais les autres apôtres, Saint-Pierre, qu'il a renié donc par trois fois, les autres apôtres qui l'ont lâchement abandonné, notre Seigneur aurait très bien pu dire après la résurrection, bon, vu le comportement lamentable que vous avez eu jeudi dernier, je choisis 12 apôtres, 12 autres. Hein. Donc vous, c'est fini. Voyez. C'était tout à fait possible, voyez. Mais non, ce n'est pas l'attitude de notre Seigneur. Alors, parce que notre Seigneur est juste, il va commencer par leur reprocher leur incrédulité. Vous voyez, notre Seigneur est juste, donc il met le doigt sur la plaie. Mais une fois qu'il a passé, leur a passé un savon, et bien à ce moment-là, bon, maintenant, il va les fortifier, au contraire, il va leur donner une plus grande espérance. Et même, il va se manger devant eux pour bien montrer que c'est lui. Il va permettre à Saint Thomas de mettre les mains et les pieds, donc sur, de mettre ses mains dans ses pieds, dans son côté. Donc, il va multiplier les preuves de sa résurrection. Et donc aujourd'hui, où notre Seigneur est au ciel, voyez, il garde cette même attitude. Donc je pense que c'est capital pour nous d'avoir cette confiance dans la miséricorde. Et vous pourriez ajouter, uniquement sur cet aspect de la miséricorde, de repasser en revue pendant cette retraite les grâces de votre vie, voyez. La grâce de votre baptême, la grâce de la connaissance de l'Église catholique dans sa tradition, la grâce peut-être d'un bon catéchisme, la grâce d'être revenu vers Dieu si vous étiez écarté de lui. Toutes les grâces personnelles que vous avez reçues. Donc tout cela, c'est quand même autant de signes, si vous voulez, de l'amour que le bon Dieu vous porte. Voyez. Donc chacune d'entre vous peut répéter et doit répéter ce que saint Paul disait. Le Christ m'a aimé et s'est livré pour moi. Voyez. Il dit pas le Christ a aimé les hommes et s'est livré pour eux. Il dit le Christ m'a aimé et s'est livré pour moi. Voyez. Ce que notre Seigneur a fait pour tous les hommes, il a fait pour chacun d'entre nous. Voyez. Et donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir ce contact personnel, voyez, avec notre Seigneur au cours de cette retraite. Et vous pensez que ce notre Seigneur dont on parle, c'est lui qu'on va prier maintenant dans la chapelle, voyez. C'est le même. Donc essayez de profiter de cette retraite pour croiser ce regard miséricordieux de notre Seigneur et pour lui dire alors que vous l'aimez toujours davantage. Alors maintenant, c'est juste une parenthèse. Il y a un autre aspect que j'aurais développé un petit peu pour... si vous voulez répondre un peu à une objection que vous pourriez poser, c'est que vous pourrez me dire, mais alors, mais pourquoi toutes ces épreuves dans ma vie, quoi, vous voyez? Parce que c'est beau sur le papier, c'est beau, ce que vous avez dit, c'est juste, mais il y a quand même le revers de la médaille, quoi, vous voyez? Alors, c'est vrai que j'aurais pu développer un autre aspect, mais je peux pas tout faire, donc, parce que maintenant ça sonnait. Donc, celles qui veulent aller au VEP pourront aller au VEP, celles qui préfèrent aller se prendre un peu l'air pourront prendre un petit peu l'air, donc, je signale quand même, c'est vrai que l'amour de Dieu pour nous est un amour qui est transcendant, vous voyez. Donc je signale simplement cet aspect-là. Notre Seigneur a dit dans la Sainte Écriture à plusieurs reprises, « Mes desseins ne sont pas vos desseins, mes voix ne sont pas vos voix. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes desseins sont au-dessus de vos desseins et mes voix au-dessus de vos voix. » Donc dans les moments où on a l'impression que le bon Dieu nous abandonne, eh bien, il faut se rappeler cela, voyez. L'aspect humain de notre Seigneur nous touche, bien sûr, beaucoup, parce que nous sommes des hommes, mais notre Seigneur reste Dieu. Et donc, son plan est bien au-dessus de nous. Donc, lorsque le bon Dieu nous fait passer spécialement à travers des tunnels, parce que dans toute vie, il y a des tunnels, eh bien, à ce moment-là, alors, on perd un petit peu pied. Et on a tendance à oublier les grâces qu'on a reçues, on a tendance à ne plus voir clair du tout. Mais les tunnels passés, déjà, nous montrent qu'en général, il y a toujours une sortie au tunnel, hein. Et puis ensuite, après, il faut faire confiance en notre Seigneur qui, donc, a ses propres raisons. Et en général, on peut d'ailleurs constater que le bon Dieu éprouve ce qu'il aime. Donc, le fait d'être éprouvé n'est pas du tout un signe d'abandon de la part de Dieu, mais un signe, au contraire, d'amour de Dieu. Maintenant, il ne faut pas vous dire, alors, oui, mais alors si j'aime trop le bon Dieu, s'il m'aime, alors il va encore m'arriver des tuiles, donc il ne faut pas que je l'aime de trop. Non. Rentrez pas dans ces combines, hein. Voilà. Et donc en tout cas, réfléchissez bien surtout aujourd'hui à cet aspect de notre Seigneur qui est à la fois prêtre, victime et sauveur.